9-9-9.
Cher Jean Dula, nous sommes bien d'accord. La lecture est le premier instrument de la liberté et elle est la première chose à défendre. Et défendre la lecture, c'est d'abord défendre la liberté de la lecture. Et donc, pour commencer, les moyens d'y accéder. Ce moyen, c'est l'école. Nous sommes toujours d'accord. Et donc, une bonne politique de l'école avec de l'argent et une pédagogie appropriée pour la conduire. C'est là qu'interviennent nos responsables et que nous intervenons non en amont pour les choisir et qu'interviendront ceux qui suivront. C'est pour eux qu'il s'agit de défendre cette liberté-là. J'ai personnellement de bons souvenirs de mes lectures scolaires. J'en parle parce que l'expression « lecture scolaire » peut faire peur, mais c'est précisément à l'école que j'ai appris à lire. J'entends que je n'ai pas seulement appris à déchiffrer les lettres, les mots, j'y ai aussi découvert des livres. Ça m'a énormément aidé, et j'ai l'impression que ça en a aidé d'autres. Mon expérience personnelle a fait que je suis devenu écrivain, et l'école n'est pas étrangère à cette évolution. Mais je l'ai encore moins étrangère au fait que je suis devenu lecteur. En effet, en devenant lecteur, ça s'apprend et ça permet de comprendre d'abord les choses qui sont écrites, la pensée des autres qui ne s'exprime jamais mieux que par cette voie. Mais pas seulement, ça permet aussi de comprendre ce qu'on nous raconte plus tard à l'oral, d'avancer dans la vie privée et publique. Lire sert à tout. Et toute politique doit commencer par une politique de la lecture, bien amicalement. Christian Auster, lettre écrite le 5 mai 2011, le titre aussi Lire sert à tout. Texte extrait du collectif Lire est le propre de l'homme, un ensemble de témoignages et réflexions de 50 auteurs de livres pour l'enfance et la jeunesse, paru à l'édition L'École de loisirs sous la direction de Jean Dula et Jean-Louis Fabre. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous dominical avec les livres, Livre Neuf. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous sommes dimanche 21 mai 2017. Toute l'équipe aujourd'hui est bel et bien présente à la technique Willem Joseph, comme d'habitude, l'infatigable Willem, et puis la présentation signée Moi, d'une prière à Hubert Charles et moi, je donne son petit frère qui vous salue et je salue les amis. Et bonsoir à Hubert Charles.
Bonsoir, Dieu l'aime et son petit frère. Bonsoir, Merlin. Bonsoir à tous les auditeurs de Magic Club. C'est un plaisir de vous rejoindre après deux semaines d'absence passées dans les beaux quartiers de Marrakech. Je suis heureux d'être de retour parmi vous pour vous apporter. Et cette émission reste donc avec de la mission petit frère et bien l'émission. Nous sommes donc tout à fait à votre disposition pour cette émission.
Bonsoir, Mélène Pierre. Bonsoir à notre ami Pascal qui vient de nous rejoindre, comme annoncé. Pascal Julio, comédien de son état, l'Ira, des extraits de l'œuvre de Mackenzie Orcel, qui est l'invité d'honneur de cette 23e édition du Livre Folie, fixée pour les 15 et 16 juin prochains dans les jardins du musée du Panthéon national haïtien Montana. Donc, la chronique passe à présent à la chronique de Robert Charles, et puis tout de suite après, on aura une lecture avec une première lecture avec Pascal Julio, nos deux invités, et Jimmy Pichot, directeur de l'école Les Petits Soleils, et son collègue, je vais parler de Charles et de Jean-Pierre. Donc, les deux, ils sont en retard, ils n'ont pas encore arrivé. Ce sont des éternels retardataires. Donc, j'espère que de toute façon, ils vont nous rejoindre. En attendant, on fait place à Hubert Charles pour la présentation de sa chronique.
Merci, Jérôme, sans se préférer. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de lectures dans cette émission, puisque toute ma chronique est dans la série de la nouvelle Le voisin d'en face. La dernière rubrique que je vous ai lue, c'était la partie sur la mort de ce petit bonhomme dans ce quartier, Jacques Levécombé. Aujourd'hui, je vais vous lire la troisième partie de cette nouvelle. Je voudrais vous dire combien de jours après la mort de Jacques Levécombé, l'événement suivant arriva. Les villageois semblaient avoir perdu l'art de compter les va-et-vient du soleil et de regarder leurs ombres sous leurs pieds, prédisant ainsi les jours de la semaine. Mais ce qui arriva était vraiment arrivé. Personne ne vous dira le contraire. Un jour comme tous les autres, pendant que Brigitte traversait la rivière, elle aperçut le corps de Paloma gonflé tel un ballon entre deux troncs d'arbres sur le sable. Tout disait que Paloma, le marchand d'anglais, ne se reposait pas. Et Brigitte n'avait pas mis trop de temps pour comprendre qu'il était mort depuis plusieurs jours, tellement l'odeur que dégageait ce corps gras sur le sable mêlé aux excréments des animaux qui vagabondaient au bord de la rivière était nauséabonde. La mort de Paloma avait beaucoup plus attristé le village que celle de Jacques. Non pas parce que Paloma, le marchand d'anglais ambulant, fut un déporté des États-Unis, encore moins parce qu'il vendait des mots d'anglais à des enfants du village, mais parce que tous les villageois avaient senti une menace peser sur sans souci, atténuant l'inquiétude de quelques-uns sur le fait qu'un malheur planait sur le village. La mort est une conséquence naturelle, nous avions appris un vieil oncle, car nous tous au village étions persuadés que le voisin d'en face y était pour quelque chose, et que jamais les dieux, tellement nous les nourrissons de sang de propre, de rhum fort, de parfum frais, ne se lèveraient contre nous. Il suffisait qu'un homme débarquât à son souci, sans y avoir été invité, planta sa maison tel un étendard après la conquête d'un territoire, il ira plus par l'oncle, pour que les morts pleuvent au village. Voilà, troisième partie de cette nouvelle qui en compte 8. Je reste donc avec vous pour la suite de l'émission.
Merci à Robert Charles, le voisin d'en face. Donc, c'est un texte qui a été primé, c'est ça, et texte finaliste du prix du jeune écrivain de langue française en 2013, donc texte de Hubert Charles. Merci pour cette courte chronique. On reçoit, en fait, Mélène Pierre cède sa place à Pascal Julio qui nous lit l'ombre animale. Bonsoir Pascal.
Ils ont toujours vécu au milieu des vaches et des bêtes sauvages. Mes parents n'avaient jamais été confrontés à cette souffrance intérieure qui provoque des tranches, des mouvements de la vie, l'absence de repères. Pour commencer, j'imagine, ils étaient élevés chez la famille lointaine. Une femme grosse et laide, dont on n'avait jamais entendu parler avant, sans savoir comment il avait eu son adresse. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours eu quelque part pour celui ou celle qui laisse son trou perdu pour aller tenter sa chance ailleurs. En attendant, il n'y a qu'à bouger leur cul. Qu'est-ce que vous croyez? Ici, on secoue les arbres pour en faire tomber des billets? Exclame la famille Montaigne. C'est dingue à ce que je n'ai envie de vomir. Il faut tout gagner à la fureur de son front. Quelques jours plus tard, toi avais trouvé du travail comme technicienne de surface, c'est-à-dire bien à plein temps et à tout faire pour trois fois rien. En haut, chez les riches, on s'efforce de dire autrement les choses qu'on dit en bas chez nous, chez les pauvres, avec des mots qui passent partout les chemins. S'arrête à tous les carrefours avant de se diriger vers le but fixé, à croire que leur euphémisme rendrait moins pénible, moins avilissant le boulot de cette étrangère qui vient s'ajouter aux valeurs de notre ville. Les conditions de petites paysannes, les bénates, relevant à la fois du viol et de l'inceste, mais pour souffrir, être le pantin des autres, courber le fil, faire aller et venir la serpillière sur des kilomètres de carrelage, sans pouvoir souffler un peu, et puis le front pour traîner le débordement incessant de cette sueur qui aveugle. En haut, c'est la vie. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut aller jusqu'au bout sans montrer le moindre signe de sa vie. Elle était prête à aller jusqu'au bout. Trois. Enfin, jusqu'à la plus infinie sphère de cette saleté du tout dernier carreau qui soit bien se bouger. Loin de ses yeux, n'ayant rien fait pour l'empêcher de partir avec un passé à fuir. Et un avenir aussi flou, avait-elle le choix. Rien n'est plus insoutenable que de l'avoir voulu. Devait-elle rester toute sa vie un sujet de honte et de mépris? Une créature sans tête de passage avec l'envie de lui mettre des bâches pour lui prier de se casser? Crois-moi, avec une tête pareille, c'est pas évident. Mais on va essayer, il a tendu. La veille du travail, grâce aux relations de la famille Montaigne, est-ce qu'elle ne manquait pas de placer sous le signe de quelque indéniable générosité avant de se rendre compte que c'était en réalité une des manœuvres que cette putain avait construite pour se débarrasser d'elle? Toi, jouer sa dernière partie. Ça t'en profite à sa manière et selon ses moyens de la part du hasard qui nous revient. Vous allez connaître. C'est un connard de la télévision, croyant pouvoir se libérer du passé, des catastrophes de l'enfance, rien qu'en passant d'un monde à un autre, qu'en passant d'un monde à un autre, de la terre battue au boulevard asphalté, des champs aux places publiques, enfin, des ténèbres, à toutes sortes de lumières. Il voulait être un autre, en un mot vivant, comme l'enfant qu'il n'avait jamais été. Il jubilait devant les possibilités pour son cette mesure, qui le lisait pour lui ressembler, mériter sa place, à abandonner son chapeau de paille pour les baskets, ses tontes ou des baskets, ses vieilles fringues de paysans. C'est que la ville supporte mal le plus souvent. ses têtes de campagne comme nous. Et cet impératif qui résiste à la guerre, d'épargner, d'appel arrivé, sa curiosité de suspect, sa démarche arrondie. C'est la première fois que c'était la terre qui est tombée sur cette vie. Tant de choses lui échappaient, le dépassaient. De tous les soirs, comme pour donner un petit coup de pouce à son moral, deux mecs qui s'adaptent vite à n'importe quelle situation. Accompagné d'une bande d'ivrognes, du bidule, il faisait la tournée des bordels. Mais putain, il fait des rires en lui lançant des paroles ironiques, mais il ne sait pas ses jamais. Il s'est quand même fait une petite réputation grâce à l'énormité de sa vie. Il disait, les yeux poulains, les membres, il en est plein de coups à se mourir. Un homme, ça n'a que sa vie. Et elle lui permet d'entrer par la grande porte. Maintenant qu'il est assez connaisseur du monde des titans, elle s'appelle Patty, My Darling, My Amor, parce que son frère à boire. Elle se branle de la main gauche pendant que la droite fouille dans ses poches à la recherche de son portefeuille. Pour bébé, il n'enlève plus jamais son pantalon.
Merci Pascal, lecture du chapitre intitulé « La famille lointaine de l'ombre animale » de Mackenzie Orcel, texte paru en 2016 aux éditions Dulma. Vraiment un très beau roman que je vous conseille de lire, de découvrir. Donc, il sera disponible à Livre en Folie les 15 et 16 juin prochains, puisque Orcel est l'invité d'honneur de la 23e foire. Donc, Pascal qui dit jusqu'avant la tenue du Livre en Folie, puisque Mackenzie Orcel est en voyage à Paris aujourd'hui. En fait, hier 20 mai, il y a eu à la Maison de la Poésie une lecture à deux voix de Caverne, Mackenzie Orcel et un ami. Donc, ici aussi à Livre Neuf, nous faisons de notre mieux pour vous inviter à entrer dans l'univers de son œuvre. Nos deux amis, Prudo et Jimmy Pichot, ils sont arrivés. Moi qui croyais qu'ils vont plus venir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Jimmy Pichot. Bonsoir aussi Jimmy et Fredo.
Bonsoir petit frère, ça fait longtemps.
Jimmy Pichot, on nous a fait beaucoup attendre. Les petits soleils, donc comment ça va là-bas?
Ça va, avec beaucoup de difficultés. Le venant de réaliser notre sixième fois du livre de l'Est, toujours avec la collaboration de Apollette Action pour la lecture. Cette année, nous avons mis en évidence le succès que nous avons signé, qui s'appelle Club de lecture pour les enseignants. Nouveau à l'école et ça marche très très bien.
Donc vous invitez les enseignants à lire ou quoi?
Oui, nous avons un livre chaque mois.
C'est-à-dire qu'ils ne lisaient pas avant, non?
C'est un club. C'est-à-dire que chaque semaine, nous avons des débats, des discussions. Et maintenant, nous tenons aussi à inviter des étudiants à l'école. Par exemple, nous avons invité Pierre-Michel, Thierry, et l'auteur de Golgotha,
ouais.
A été là, ça a été vraiment bien. Nous avons invité des parents également à venir participer avec nous. Je pense que ça est plus fait dans la politique du livre à l'école, ça est plus. Parce que pour la fois même, je pense que les débats ont été guidés par les enseignants. Nous avons eu plusieurs mini-débats sur des livres qui commençaient à la moindre électrique. Et Alain n'est pas obligé.
Amad de Kourouma.
Donc, il y a le jeu qui disait des romans d'amour. Ça a été vraiment très bien animé.
Et les enfants, comment est-ce qu'ils reçoivent la lecture donc, à l'école? Donc, est-ce qu'ils continuent de lire? Parce que, en fait, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait une activité autour du roman d'Amadou Kourouma. Donc, j'ai vu ça sur Internet. Donc, j'ai l'impression que le travail autour du livre de la lecture donc, se fait assez bien à l'école. Comment est-ce que vous procédez?
Exactement. Les élèves, nous avons eu des demandes aux élèves de lire. Et nous croyons que l'exemple vient d'en haut. Et maintenant, les élèves ont l'habitude d'exposer sur la cour, d'exposer sur les romans. Maintenant, vous imaginez que les professeurs qui font aussi, des exposés, et les élèves sont là pour poser des questions. Par exemple, dans commentaire à moi avec un est-ce que vraiment la lutte, on parle de la même. Question, vous voyez, c'est assez intéressant et les élèves sont intéressés par la suite à lire aussi. Ils demandent des livres, certains livres à lire aussi. Là, c'est. À l'école, je pense que c'est une grande politique. Et du livre qui est assez rare dans une école primaire, parce qu'il y a Fredo qui est monsieur livre à l'école. Lui, il est là pour encourager, donc à lire. Et le matin, qu'est-ce que nous faisons le matin? Tout le matin, quand il est là, lui, il doit avoir un livre en main. Et nous avons une rotation de livres dans les salles de classe. Chaque élève a un livre individuel. Et le vendredi, on fait une rotation de livres. On les change, les livres de vendredi. Et toutes les maîtresses de l'école, et puis la petite section, ont l'obligation de lire une histoire chaque jour, un conte, une histoire pour les élèves. Donc, et les élèves sont obligés aussi de faire des exposés sur les livres. Et nous avons aussi une structure, et c'est la Petit Soleil. Le matin, que j'anime des fois avec certains élèves qui viennent chanter et qui viennent aussi raconter des petites histoires au micro. Et on a des haut-parleurs dans les salles de classe. Donc chaque classe anime, donc c'est ce qu'on Radio Petit Soleil. Donc,
c'est nouveau à l'école.
Ah oui. Nous essayons de trouver des prétextes à chaque fois pour encourager à lire. Et même les parents, nous maintenant, notre objectif et pour l'année prochaine, c'est comment et aussi éviter faire. Et que les parents puissent participer à ce travail de lecture. Et même quand le parent est analphabète, parce que nous essayons de mettre en évidence et l'intraculturel. C'est-à-dire que le parent peut dire des lunettes, des contes, des pluralistes. Donc même là, c'est ce que nous
faisons. Et le travail de lecture.
Bon, le travail de lecture continue de se faire parce que. En tant que maîtrise à l'école de la Petite du Soleil, c'est comme ça qu'on m'appelle maîtrise. Donc, c'est un paquet. Chaque matin, les pseudos arrivent avec un livre nouveau. Ce livre, qu'est-ce qu'il fait avec? Il le présente aux enfants, il le présente aux enfants et ensuite on procède par l'étude thématique. Si on aborde un matin un thème, les autres jours on aborde un autre thème et on discute là-dessus. Des fois, ce qui nous intéresse, c'est la méthode de lecture. Comment on peut aider l'enfant à parfaire son écriture et comment aider l'enfant à rédiger. Mais le plus souvent, ce qui nous intéresse, c'est entrer l'enfant dans l'imaginaire du pays, l'imaginaire social haïtien. Donc, je priorise les contes des auteurs haïtiens au lieu des contes étrangers. Et l'année dernière, j'avais vu les contes de tous les pays. Cette année, je les plonge. De l'univers haïtien. Parce qu'on a besoin de se connaître, on a besoin de se dire haïtien, on a besoin d'être soi pour aller vers les autres. C'est pourquoi, aujourd'hui, il y a nécessité, il y a urgence même de développer chez l'enfant son estime de soi, son estime du pays, de l'être haïtien, de son être haïtien. Parce que sans ça, on n'est rien, sans ça, on ne peut pas aller de l'avant. Et moi, j'ai le privilège de voir les meilleurs textes, Bel Oranger, de voir, d'aborder des thèmes même philosophiques avec les enfants. Ah oui, bien sûr. et la semaine dernière, on a abordé ensemble les combustibles. Et Amélie Nicole, dans la cité du sixième année, waouh! C'est une bonne histoire, c'est le livre, parce qu'il n'y a pas que la lecture, il faut que l'enfant puisse être en mesure de tenir un discours sur la lecture.
Tout à fait.
De voir comment on aborde la question. Voilà. Parce que développer la capacité critique de l'enfant, ça commence dès maintenant. Il sait que le petit soleil priorise. Développer de très tôt la capacité critique de l'enfant. Pour qu'il puisse entrer dans le monde avec une maturité qui le permettra d'aborder les priorités de la vie, de mieux les comprendre.
Tout à fait. Merci, Fredo. Pascal nous lit encore Mackenzie. Cette fois-ci, dans la nuit des terrasses, elle va nous lire des extraits de texte.
Appuyée au comptoir, un jaune, poitrine entre ses lèvres scellées, seul gage d'éternité. Même ailleurs, colonne d'ombre, on ne suit pas ces choses à cause de stimulation. Reprend la voix de son grand-père. On ne peut rien contre l'enfant. Rien n'est digne de ce lettre. Méditerranéenne sans voir l'air, coule contre mourir. Le triomphe du même, nul printemps au bout du possible, de la solitude de l'aventurier. Rien de terrain, cocu, raté, bâtard, noyé, insoumis, jetons-nous par-dessus bord. Ma tête remplie du tournis des phares, leur effarement, les tympans brûlés de leurs gardiens, leur tête d'insoumis, l'horreur des bouches présentant des comptoirs pour dégueuler leurs ruines. Les putains de la rue Capois et la chair chaude de l'aîné. Depuis que j'ai appris qu'il faut laisser la nuit entrer dans sa vie pour qu'il y ait un phare quelque part, mais mon respire mine de la mer, tout au fond de mon rêve. Mais comme ça m'a senti. Mes étoiles noyées, au soir qui descendent dans les rues, qui ne leur s'en peut plus. Je jetterai mes hausseux pour atteindre la lumière dans son poids de chaleur et qui travaille. Dis que ton vin coule pour que les tours détournent leur regard, pour que les trottoirs changent de côté. Laisse-toi du dos courbé de la lune.
Mackenzie Orcel, laisse-toi du dos courbé de la nuit, dans la nuit des terrasses, donc le recueil du poème paru. Aux éditions La Contralie, c'est en 2016 également, texte qui sera disponible à Livre en Folie les 15 et 16 juin 2017 dans les jardins du Mupala. Alors, monsieur, les petits soleils seront à Livre en Folie. Livre en Folie, comment est-ce que vous comprenez cette initiative qui, pour moi, permet la libre circulation du livre, la rencontre des auteurs avec le public.
Je trouve que l'initiative est bonne. Le grand problème, c'est qu'il y a tellement de monde, donc je sais qu'il y a une expérience, donc il y a parce que je ne suis plus étudiant et j'ai la possibilité d'assurer une belle librairie. Donc, et le 15, je crois, ce jour-là, nous avons une belle activité, c'est la journée de l'eau à l'école. Et tout ce que les élèves appellent à nager, c'est la première année de scolaire. Donc, c'est l'occasion pour nous d'avoir une journée avec les parents et les élèves. Donc, nous aurons des compétitions également, donc nous serons très plus. Et si de cette vie, nous avons cette journée de l'eau, donc malheureusement, nous ne serons pas à ce problème.
En fait, vous vous plaignez du fait qu'il y a beaucoup de monde, mais ce n'est pas mauvais.
c'est pas mauvais, mais moi-même, j'ai un problème avec l'organisation. J'ai passé beaucoup trop de temps à sélectionner les livres, pour faire les longues queues pour aller payer de ça. Ça m'a pris toute une journée, donc ça a été pas évident.
Je ne vais pas prendre la défense des organisateurs chrétiens, mais plusieurs efforts ont été faits dans ce sens pour diminuer l'affluence devant les stands, que ce soit la création de stands des éditeurs indépendants qui regroupent certains éditeurs qui étaient normalement logés chez les Communications Plus, que ce soit étaler l'événement sur deux jours. Et je ne prends pas la défense parce que je connais tous les défauts et toutes les qualités de Livre en Folie. Par contre, sur ce dernier point, il y a des efforts qui sont faits par les organisateurs pour essayer de désengorger les gens devant les stands, je dirais, et ça, comme Communication Plus, des champs, ainsi de suite. Et ça, et c'est important qu'il faut le souligner également. Revient à parler des efforts qui sont menés par les organisateurs.
Effectivement, il y a vraiment beaucoup d'efforts. Non seulement il y a le stand, le Novelist aussi qui reçoit des livres juste pour essayer de décongestionner et tout ça. L'année dernière, en fait, en 2 ans, j'ai vu que ça a permis ça permet d'avoir une plus grande circulation des gens et au parc historique. Et j'espère que l'expérience qu'on va faire cette année, donc ça va être la première avec le Mupana, ça va porter des fruits. Bon, et l'espace peut-être n'est pas aussi grand que le parc historique, mais il y aura certainement un moyen de permettre la libre circulation des acheteurs, du public, des gens qui viendront pour certainement rencontrer Mackenzie Orcel. Je suis sûr qu'il y en aura beaucoup à vouloir rencontrer les Steven Star. Hein. Et aussi faire un petit bisou à Odette Wafonbron qui est co-invitée, elle est centenaire, donc c'est une façon de rendre hommage à Odette Wafonbron. Vous avez l'habitude de lire les histoires d'Odette Wafonbron ou de les faire lire aux enfants de l'école? Donc,
c'est indispensable de faire l'empriori de la génération. On lit ce soir les contes, d'accord? On lit aussi les paragraphes. On travaille, si on travaille la thématique, une thématique, donc c'est l'ensemble des thèmes. On peut choisir un thème, etc. Donc quand je travaille les rues avec avec les enfants, donc ils aiment parce que notre façon d'entrer dans la littérature, de trouver la beauté de la littérature et la manière de faire de l'intérieur.
Est-ce que vous avez un cours de littérature jeunesse, par exemple, à l'école?
Ben, justement, parce que c'est moi qui assiste ce cours. Au lieu de l'appeler comme ça, on préfère l'appeler initiation à la littérature.
Nous voulons aussi avoir
Est-ce que ce ne serait pas une belle occasion pour certains d'entre eux de rencontrer Odette?
Justement, la facilité également, c'est ça, c'est deux jours. C'est le pré-scolaire qui est à une journée pour le pré-scolaire et une journée pour le primaire.
Je voudrais bien, et Fredo, un moment, je voudrais bien revenir sur la qualité de commencer ou encore de mener un programme de lecture pour les professeurs sur la stratégie qu'il y a derrière Et je voudrais donc par la même vous poser deux questions. Deux questions. Une première sur la stratégie, comment vous, vous est-ce que effectivement la personne cible, on va dire finale, c'est les professeurs ou les élèves, lorsque vous mettez sur pied un programme de lecture, un club, un atelier de lecture pour les professeurs, est-ce que la stratégie c'est de passer par les professeurs pour atteindre les élèves? Deuxième question, c'est que, et on a bien compris et aimé la pédagogie de Petit Soleil qui consiste à mettre le livre au cœur du développement de l'enfant. Et est-ce que vous êtes toujours dans la stratégie? Est-ce que vous êtes à une phase expérimentale d'une méthode de pédagogie? On a vu quelques traces de Montessori, l'autonomie de l'enfant, l'esprit critique de l'enfant. Est-ce que vous vous reposez sur une méthode ou vous êtes à une phase expérimentale, vous faites de l'expérimentation, pardonnez-moi l'expression, tous les jours à Petit Soleil?
Je pense que le nous savons qu'il n'y a pas de méthode. En fait, nous essayons de voir un peu partout. Et Madame Barbara, qui fait elle a fait des études dans le tutoriel. Donc, cette stratégie est avec les petits. Donc, cette stratégie qui est basée sur la méthode du tutoriel, c'est ça le sujet d'elle. Parce qu'elle a étudié donc, la méthode. Et nous pensons que nous avons une priorisation par. Les étudiants ou les élèves, notre objectif c'est que nous voulons avoir tout simplement des lecteurs. Et moi-même, justement, je pense que le club de lecture, c'est peut-être une occasion de nous retrouver dans le club de lecture, nous voulons avoir du plaisir à lire. C'est ça, d'abord, de nous retrouver, parce que nous nous retrouvons des fois au bord de la piscine, nous retrouvons au bord de la plage. Et nous pouvons aussi regarder des films ensemble, nous pouvons faire des sorties, aller au musée, au cinéma, ensemble. Donc c'est sûr que ça pour nous autres. Donc nous voulons créer et à l'école et l'harmonie, donc je dirais de la convivialité dans le corps enseignant. C'est d'abord ça. Donc, je crois que c'est fondamental. Et du coup, donc puisque un lecteur qui lit s'enrichit, du coup, nous sommes assez intelligents, donc nous pensons qu'en lisant, donc nos professeurs vont faire mieux leur devoir à l'école, vont enseigner mieux en lisant. Donc c'est aussi simple. Parce que nous avons toute une batterie de règlements donc pour le club de lecture. Parce que nous mettons à côté les questions d'ordre religieux, moral, et nous mettons tout ça à côté pour être vraiment dans le livre, nous pouvons accueillir n'importe quel livre, n'importe quel sujet, n'importe quel débat au niveau de ce club.
N'importe quel auteur aussi.
Donc, tout à l'heure, tu as eu le fait d'envoyer des cours d'initiation à la fois de nous. Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez comme contenu dans ce cours, parce que vous avez dit, il y a philosophie, il y a poésie, il y a roman, bon.
En fait, on ne va pas se déballer ici parce que je pense que je ne vais
pas
aller loin. Ah oui, je sais. En fait, la vie des gens selon les classes, les romans, les lectures, les récits, les nouvelles. En passant un peu de théâtre, un peu de théâtre, le théâtre, le bien qui s'en occupe, parce qu'il est beaucoup plus bon que moi, dans la manière de procéder. Parce que quand on a dit, c'est une mise en scène, ça rapporte aux enfants. Maintenant, je fais la lecture. Ah, bon, finalement, on m'appelle anarchiste avec les enfants. Parce que dans notre manière de faire, en fait, ça libérait l'enfant de ses angoisses de la journée, ou bien de la semaine. Donc, l'enfant beaucoup. Le problème qui se passait à la maison, l'enfant s'occupe tout simplement à découvrir un autre univers et une autre culture. Donc, pour ce qui importe, ce n'est pas le programme, c'est essayer d'aller à la rencontre de l'enfant.
à la rencontre de l'enfant, de le faire voyager à travers la culture. Peu importe le programme, peu importe le rapport qu'on utilise, l'essentiel pour eux, c'est d'empêcher que l'enfant adopte les préjugés qu'on voit de cette société, de ce qu'elle est. Donc, on peut pas dans les enfants du monde. Et d'abord, les enfants haïtiens, mais qui, justement, qui développent les cultures, qui peuvent voir le monde avec des yeux ouverts. Vraiment ouverts, et je parle aussi des gens dans le sens de la spiritualité. Voilà.
Je pense qu'il y a une difficulté. Réel, c'est que je me suivais quand j'ai suivi des cours sur la littérature jeunesse, sur la littérature du monde, il y a vraiment une difficulté. C'est qu'on nous a donné des romans pour adultes et des romans pour enfants. Ok, nous avons ce livre et nous avons eu des chapitres, des débuts de chapitres qu'on a un peu mélangés. On nous a demandé de faire l'outil. De classifier entre romans pour adultes et romans pour enfants. Certaines fois, nous avons lu des romans pour enfants. Nous avons dit que c'est des romans pour adultes. Et des fois, des romans pour enfants, nous avons dit que c'est des romans pour adultes. Donc, des fois, il y a une véritable difficulté. Donc, lorsque vous avez lu, on vous dit à partir de 8 ans, 9 ans, donc des fois, je lis. Parce que tous les enfants ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas homogènes. Et on ne doit pas se verser dans la facilité. Enfant, c'est ce qui est facile. Il y a des enfants qui aiment les difficultés. Et c'est des livres forcés. Par exemple, pour la littérature jeunesse, j'ai lu en Allemagne, il y a des gens qui essaient même de mettre des articles de français. C'est difficile pour les enfants qui essaient de les voir. Mais ici, des fois, les livres forcés. Et c'est pour bon enfant, c'est
tombé dans la facilité.
C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça.
Je crois qu'on en a parlé, et les amis, et Robert et Méline, dans le numéro 6 de la revue L'aide de littérature et sur cette question, puisque c'est un numéro qui a été consacré à la littérature jeunesse. Donc en Haïti, les enfants, la lecture en général, c'est négligé, on fait très peu de cas, mais quand il s'agit de littérature jeunesse, c'est encore pire. Les enfants, ils sont livrés à eux et n'importe qui pense être en mesure d'écrire pour les enfants. Or, ce n'est pas toujours le cas. Alors, vous êtes à l'école des Petits Soleils, donc, en fait, pour avoir visité plusieurs fois et les Petits Soleils, donc, je sais que vous faites un travail vraiment et hors pair et là-bas, il faut continuer. Même si cette année, vous ne nous avez pas invité à la foire du jeunesse.
C'est une année spéciale. C'est notre sixième fois. C'est parce que nous avons voulu garder la tradition. Nous avons fait même fois et nous avons les discussions. Nous sommes en pleine discussion. C'est assez difficile. Je vous remercie pour vous féliciter parce que la salle de classe, je crois, c'est Mélène qui a fait ce travail. Et le livre sur pour les matériaux de voilà. Les élèves ont beaucoup discuté, j'étais même obligé d'aller apprendre la chanson des gens et de l'action civique. Michel Ovecom, j'étais obligé de lui chanter pour les enfants. Michel Ovecom, Somdi, ça a été fait un débat animé en salle de classe sur la ségrégation, sur le racisme. Justement,
c'est un modèle.
Voilà. Justement, je pense parler à tout à l'heure, nous pensons aussi diviser, donc avec les autres séries que vous avez, donc pour les autres classes d'avoir ces genres de livres de réflexion, pas seulement des livres de lecture de récits, mais aussi des livres.
Les biographies.
Voilà, les biographies, les modèles. Donc, ce n'est pas de modèles.
C'est ça l'objectif, voilà. Même c'est de présenter des modèles aux enfants.
Merci Robert et puis notre ami Fredo. Et Pascal va nous lire un dernier extrait et pour ce soir de Mackenzie Orsel. Cette fois, elle va revenir au récit. Elle nous lit Les Immortels.
Géralda Grandevin était une petite maison. Petite maison, c'est-à-dire, il y avait sa domicile. Un trou, sans autre occupation que de recevoir dans tous les sens au moins 12 clients par jour dans une pièce exiguë qui fut le superbe et la mort. Où il n'y avait pour tout décor qu'un pot de chambre, un lit en bois de chêne, un miroir sale et fissuré qui ne renvoie que quelques brides de l'image ou une image complètement déformée et quelques bataclans de Titan. Un décor qui n'a rien à envier aux autres chambres de Titan. Mais un beau jour comme ça, à la grande surprise de tout le monde, elle a décidé de se poster sur le trottoir. Elle s'était dit tout bonnement pour mieux se convaincre que l'attitude casanière de certaines putes était due à un refus, un manque d'affirmation de soi. Elle ne voulait plus être pute maison. C'est étrange. Une Géralda Grandevin qui n'a jamais opté pour le trottoir, maintenant qui se rengorgeait comme un pain, on n'en revenait pas. Ce que les lois veulent, Dieu le veut.
Merci encore une fois à Pascal Julio donc, qui nous a lu aujourd'hui Mackenzie Orsel. Donc, elle nous a lu Les Immortels, La Nuit des Terrasses et surtout L'Ombre Animale. Donc, Mackenzie Orsel qui n'était pas là en chair et en os avec nous, mais ses romans, les extraits que nous salut Pascal, nous ont bien accompagné. Donc, merci à nos amis. Hein. Donc, je suppose que c'est déjà la fin, Willem, nous acheminons vers la fin de l'émission. Et il ne nous reste qu'à remercier nos deux amis, Jimmy Petiot et Charles Fredo Jean-Pierre de Le Petit Soleil. Donc, ils nous ont fait l'honneur cet après-midi à Livre Neuf. Merci, Tétiot. Merci, Fébo.
Merci, Tétiot. Je tiens à saluer la salle de l'écoute de Livre Neuf.
Merci,
Tétiot.
Merci à Pascal qui a lu Mackenzie et qui continuera à lire Mackenzie jusqu'à la fin du livre en folie. Alors, merci à vous, fidèles auditeurs et auditrices de Livre Neuf, qui nous avez prêté oreille forte. Merci à Williams qui a assuré et qui assure toujours les manœuvres techniques. Grâce à lui que cette émission puisse être arrivée chez vous. Donc, d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Mais n'oubliez surtout pas que Livre Neuf est une émission proposée par la Radio Magique Neuf en partenariat avec l'association L'Aide et Littérature à l'aile. Ne zappez pas, Richard est déjà là pour ce beau parfum d'autrefois. Donc, les chansons souvenirs. Richard, bonsoir. À dimanche prochain.
Bien qu'il ne soit pas l'esprit de que la nourriture est au corps, nourrissez votre esprit en écoutant tous les dimanches de 5h à 6h de l'après-midi, Livre Neuf sur Magic 9.9 avec deux larmes de son petit frère, Myrvine Pierre et Bébert Charles. Actualité sur le livre, débat, lecture critique, rencontre avec les auteurs, les amants et tous les professionnels de la chaîne du livre. Livre Neuf, c'est le livre dans toutes les étapes sur Magic 9. Livre Neuf, une émission conduite par la radio Magic Mouse en partenariat avec l'association Lettres et Littérature. Allez.
Mash, 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 mash